7-9.
Eh oui, bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 10 septembre. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une ancienne ministre de la Santé devant la Cour de justice de la République. À 9h ce matin, Agnès Buzyn devra s'expliquer sur ses décisions au commencement de la crise du coronavirus. On voit ça, Marion, après les autres titres.
Le procès des attentats du 13 novembre. Le président doit lire les faits aujourd'hui, mais Salah Abdeslam, l'un des principaux accusé, tente de transformer en tribune la cour d'assises spéciale. L'économie française, ça va mieux, merci. Bercy prévoit un déficit en baisse, une croissance qui continue. Illustration au salon Maison et Objets, nous y serons. Nous irons aussi à Deauville pour une dernière ovation debout à Jean-Paul Belmondo avant les obsèques de l'acteur aujourd'hui.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, c'est le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, la situation économique, on va faire un point sur cette rentrée et essayer de savoir si l'embellie est durable ou non. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le réalisateur, scénariste, producteur Quentin Tarantino. Il publie son premier roman, Il était une fois à Hollywood, c'est chez Fayard.
France Inter. La gestion de la crise Covid par le gouvernement, aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. L'ex-ministre de la Santé, désormais salarié de l'Organisation mondiale de la Santé, doit se présenter ce matin, 9h, suite de l'enquête ouverte en juillet 2020. Mathilde Vinceneux, Agnès Buzyn risque une mise en examen.
Parmi les milliers de plaintes reçues par la Cour de justice de la République depuis le début de l'épidémie, 16 ont été jugées recevables et certaines visent directement l'ancienne ministre de la Santé. Agnès Buzyn était aux manettes au commencement de la crise sanitaire et plusieurs questions se posent sur la gestion du danger. Fin janvier 2020, par exemple, elle déclare que le risque de propagation du coronavirus est très faible. Il y a aussi un manque d'équipement de protection. Maître Hervé Bambanas, c'était l'avocat de l'association Avec 19 qui regroupe des victimes du coronavirus.
La gestion des masques est une question fondamentale. Pourquoi cette pénurie va frapper le pays? Mais la volonté de l'association Avec 19, ce n'est pas d'obtenir une tête. Au contraire, c'est de savoir ce qui s'est véritablement passé. À quel moment précis les responsables politiques ont été informés d'un danger et qu'ont-ils fait dans la période qui va suivre immédiatement la connaissance de ce risque.
Lors de son audition, Agnès Buzyn devra convaincre les magistrats. Elle pourrait être mise en examen ou alors placée sous le statut de témoin assisté.
Elle a pris les décisions que les circonstances lui commandaient de prendre, justifie le Premier ministre. Agnès Buzyn, elle, s'était déjà défendue face aux députés, c'était en juin 2020.
Le 25 janvier, c'est-à-dire le lendemain des premiers cas français, le lendemain du premier cas analysé. Et c'est sur cette intuition-là que je mets en branle tout le système sanitaire français. Et je passe commande de protocoles, je demande qu'on me fasse une remontée sur le nombre de respirateurs, le nombre de lits de réa, je demande des scénarios de dangerosité à Santé publique France et je demande une réunion chez le Premier ministre qui a lieu le jour même. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé.
Aujourd'hui, premier mort du coronavirus en Nouvelle-Calédonie, mais le virus recule en France métropolitaine. Baisse des contaminations, des hospitalisations, on est en bonne voie, estime Olivier Véran, actuel ministre de la Santé. Et pour poursuivre dans cette voie, en espoir à l'horizon pour 2023, le vaccin en spray nasal, il serait 100% français, mais surtout permettrait de réduire la transmission qui reste possible avec les injections classiques. Explication sur franceinter.fr et dans le journal de 7h30. Sur Inter. Le vaccin anti-coronavirus obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux, ça c'est une décision du président des États-Unis. Décret publié aujourd'hui dans les entreprises de plus de 100 salariés. Un pass sanitaire sera bientôt mis en place.
Il est 7h04, troisième jour, Marion, du procès des attentats du 13 novembre. On passe à la lecture des faits.
Ça devrait prendre la journée pour résumer ce qui est reproché aux 20 accusés et raconter ces attaques terroristes qui ont tué 130 personnes en 2015. Plus de 8 heures de lecture pour le président. Un président qui a dû déjà déployer une certaine énergie ces derniers jours, forcé de recadrer plusieurs fois l'un des principaux accusés, Salah Abdeslam. Il multiplie les provocations, Sophie Parmentier.
Au premier jour du procès, Salah Abdeslam s'est vanté d'être combattant de l'État islamique. Puis il a vociféré contre la prison française, se disant traité comme un chien. Au deuxième jour de procès, l'accusé Abdeslam se lève alors que la cour enregistre les noms des parties civiles qui demandent à être reconnues comme victimes des attentats du 13 novembre. Est-ce que les victimes en Syrie pourront prendre la parole ? Lance Abdeslam. Je ne cautionne pas votre justice, poursuit-il. Le président de la cour finit par lui couper le micro. Abdeslam continue à crier dans le vide. Plus personne ne l'entend. Sur le banc des parties civiles, Yann, rescapé du Bataclan, veut prendre du recul par rapport à ses provocations.
Première chose, c'est qu'il n'est pas mutique, en fait, c'est une personne qui s'exprime. Il a quasiment rien dit en 5 ans et là, il s'est exprimé. Pour moi, ça n'a pas trop de valeur. S'il commence justement à allumer les mèches, entre guillemets, pour moi, ça ne fait pas avancer les choses, ça ne fait pas avancer le débat. Et lui, ce qu'il a à dire, je pense qu'il faut l'occulter pour l'instant. Après, quand il sera amené à s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu, donc là, on verra s'il s'exprime ou pas, enfin, ce qu'il a fait en tout cas. Mais pour l'instant, toutes ces digressions, non, ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense qu'il faut les laisser là où elles sont.
Aujourd'hui, il est peu probable que le président tolère qu'un accusé n'intervienne lors de la douloureuse lecture des faits.
Et ce procès des attentats du 13 novembre doit durer 9 mois. Dans l'actualité judiciaire, encore, les supermarchés allemands Lidl mis en examen pour homicide involontaire et harcèlement moral. Cela fait suite au suicide d'un salarié en mai 2015 et au burn-out d'un autre.
Le secrétaire général des Nations Unies, Marion, plaide pour un dialogue avec les talibans.
Antonio Guterres veut ainsi éviter des millions de morts en Afghanistan, dit-il. Un avion d'évacuation a décollé de Kaboul vers Doha dans la nuit, le premier depuis fin août. En Allemagne, des milliers d'Afghans attendent, eux, leur évacuation vers les États-Unis. La base de Ramstein, la plus grosse base américaine en Europe, se transforme en attendant en camp d'accueil. Reportage Hugo Flotat.
L'image est impressionnante, des centaines de tentes militaires alignées, entourées de grillages. Les soldats américains renvoient souriant les ballons des enfants passés du mauvais côté. Des enfants sauvés de Kaboul, sourit la responsable américaine du camp, la colonelle Amy Glinson, qui raconte la mise sur pied de cette véritable ville en quelques jours. C'est un défi qui a été surmonté avec toutes nos forces, des ingénieurs civils en passant par les responsables des services alimentaires ou les forces de sécurité, dit-elle. Mais Ramstein est donc lieu de passage seulement pour les réfugiés. Au bord du tarmac, Abdul Hamid, ancien interprète de l'armée américaine, s'apprête à s'envoler pour les États-Unis avec sa femme et ses deux enfants. Si on était resté en Afghanistan, les talibans nous auraient tués. On est heureux maintenant de partir aux USA, dit-il. Mais beaucoup rejoignent les États-Unis seuls. Saïma, par exemple, étudiante, 22 ans, unique enfant d'une fratrie de 4 à avoir pu rejoindre l'aéroport de Kaboul quand son père les a suppliés de fuir. On avait commencé notre deuxième semestre à l'université avec des rêves et des espoirs. Les talibans nous ont tout pris. Il faut nous aider à sortir nos familles de là maintenant, implore-t-elle. À ses côtés, une autre jeune fille, elle aussi, est seule. Les talibans ont déjà tué sa mère. Ramstein, Hugo Flotatalon, France Inter.
En France, Lucette Michaud-Chevry, ex-ministre de Jacques Chirac, est morte à l'âge de 92 ans, annonce sa famille. Sénatrice de Guadeloupe et plusieurs fois secrétaire d'État, elle avait aussi été condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour délits environnementaux et favoritisme. Emmanuel Macron se rend à Corbière en Provence. Aujourd'hui, le président de la République invité de la foire agricole Terre de Jim. Le chef de l'État doit y annoncer une hausse des fonds publics pour aider les agriculteurs victimes de gel ou d'inondations. Et au chapitre économique, ça va mieux. En tout cas, c'est ce que prévoit le gouvernement dans son dernier budget du quinquennat. Delphine Simon, le ministre de l'économie, entend poursuivre les baisses d'impôts et réduire les déficits sur fond de reprise de l'activité.
Un budget pour une croissance durable, c'est ainsi qu'il s'intitule. Après 6% cette année, Bercy vise 4% de croissance l'an prochain. Et ça ne relève pas du miracle ni du rebond automatique après la crise. C'est le fruit de la politique de relance, affirme Bruno Le Maire, citant le prix Nobel Joseph Stiglitz. En année électorale, les promesses de baisse d'impôts seront tenues. Le taux d'impôt sur les sociétés est ramené à 25%. Quant à la taxe d'habitation, elle va baisser d'un tiers pour les ménages qui la payent encore. Pas question pour autant de se montrer dépensier. Après l'arrêt du quoi qu'il en coûte, Bercy promet de ramener les déficits publics sous la barre des 5%. C'est faisable vu la croissance. Mais dans son objectif, Bercy n'intègre pas le revenu d'engagement pour les jeunes qui s'annonce coûteux ou les investissements d'avenir pour l'hydrogène, par exemple. Emmanuel Macron les annoncera lui-même dans les prochaines semaines. En attendant, la Cour des comptes s'inquiète, elle, des mesures d'urgence décidées en pleine crise qui seront maintenues, comme les hausses de salaire à l'hôpital. Les sages réclament du gouvernement une méthode et des réformes.
Et pour illustrer la reprise, il y a les chiffres, il y a les images. Celles, par exemple, du salon Maison et Objets. Premier grand salon à revenir après la pandémie. 40 000 visiteurs attendus à Paris-Nord-Villepinte. Dans les allées, notre reporter a
Agnès Soubiran.
Bonjour madame, votre passe sanitaire s'il vous plaît.
Pas de cohue à l'entrée, mais des exposants et des acheteurs visiblement ravis de se retrouver. Nathalie Coudrine, consultante dans l'univers de la table, fréquente les allées du salon depuis plus de 20 ans.
Maison et Objet, c'est un lieu d'échange incroyable qui nous font rêver et je pense qu'on en a beaucoup besoin dans l'après-confinement. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir voir les produits, les toucher, créer soi-même des assemblages. C'est déjà un début de reprise et je trouve que c'est extrêmement important.
De l'envie, oui, mais aussi un peu d'appréhension pour Hervé Ghiraghelli, des Jardins de la Comtesse, leader européen des paniers de pique-nique haut de gamme.
Je ne vous cache pas qu'on est un petit peu dans l'expectative de voir l'affluence, comment ça allait se passer et de se dire effectivement, vu que c'est le premier gros salon qui revient et on est agréablement surpris, mission accomplie, on est ravis.
Le secteur de la maison a effectivement bien résisté à la crise sanitaire, la demande reste forte, mais les marques doivent faire face à des pénuries de bois, d'acier ou d'aluminium. Stéphane Guillaumont, l'un des dirigeants de la coutellerie TB.
C'est difficile de faire à la fois face à des besoins qui sont en forte augmentation et des disponibilités de matières qui sont elles en baisse et des coûts qui montent en flèche. Donc l'un dans l'autre, c'est une équation pas forcément simple, mais il vaut mieux avoir à gérer de trop plus trop peu.
Des interrogations donc, mais aussi et surtout une très forte envie de nouveautés autour de thèmes comme le développement désirable ou la cabane idéale.
Le salon maison et objets jusqu'à lundi prochain.
Il est 7h11, une cérémonie familiale à Saint-Germain-des-Prés pour un dernier au revoir à Jean-Paul Belmondo.
Les obsèques du Magnifique auront lieu à 11h après l'hommage aux Invalides hier. Des admirateurs qui ont défilé jusque tard dans la nuit. Et ce coup de chapeau aussi à l'acteur au Festival du cinéma américain de Deauville, celui de Claude Lelouch, récit de l'envoyé spécial de France Inter, Alexis Demeyer.
Plus qu'un acteur, plus qu'un ami, plus qu'un frère.
C'est un Claude Lelouch très ému qui a pris la parole sur scène face aux 1500 spectateurs de l'auditorium Michel Dornano.
Vous savez, il y a un truc qu'il adorait, c'est la standing ovation. Alors on va lui faire une standing ovation. Pour toi Jean-Paul, pour toi.
L'amour c'est mieux que la vie, le 50e film signé Lelouch évoque justement le thème de la fin de vie.
Il y a quelques mois, j'avais été le voir et il me dit « qu'est-ce que tu prépares ?» Je lui dis « je prépare un film qui va s'appeler « L'amour, c'est mieux que la vie » et il me dit « de quoi ça parle ?» et je lui ai raconté l'histoire. Voilà, et on a été ravis de lui dédier ce film.
C'est un passage express pour Claude Lelouch à Deauville puisqu'il sera tout à l'heure présent aux obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris.
C'était l'homme qui a su se faire aimer de 60 millions de Français, donc ça veut dire qu'il avait toutes les qualités, quoi. On va vivre sans lui, mais comme il a fait plein de films et qu'on va les voir tout le temps, il va être là tout le temps. Il va regarder Chaplin, il est toujours parmi nous, Gabin aussi.
Alors tu vas changer de costard, hein, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout.
Claude Lelouch aura filmé 3 fois son ami Bébel dans Un homme qui me plaît, Les Misérables et l'inoubliable Itinéraire d'un enfant gâté qui valut à Belmondo son seul César et qu'il a d'ailleurs refusé.
Et gâtées, elles le sont. On connaît désormais la très jeune affiche de la finale dames de l'US Open de tennis. La Britannique Emma Raducanu affrontera la Canadienne Leila Fernandez.
Merci Marion Lourd. Dans 3 minutes, le zoom sur la peur d'un nouveau djihadistan au Sahel.